Alphonse Allais, dans la section Humour, voici Le Fait divers, lu par Alain Bernard, illustration musicale, Lignocienne d'Éric Satie, licence Musopen. Jeudi dernier, les époux H se rendaient au théâtre Montmartre pour assister à la représentation du vieux caporal. Ils avaient laissé leur domicile sous la garde d'un petit chien fort intelligent qui répond au nom de Castor. Si l'homme est véritablement le roi de la création, le chien peut, sans être taxé d'exagération, en passer pour le baron tout au moins. Castor en particulier est un animal extrêmement remarquable, dont les époux H ont dit à maintes reprises: Castor, nous ne le donnerions pas pour 10 000 francs, quand ce serait le pape qui nous le demanderait. Bien en a pris aux époux H de cet attachement. Ces braves gens n'en étaient pas plus tôt au deuxième acte du vieux caporal que des cambrioleurs s'introduisaient dans leur domicile. Castor, occupé en ce moment à jouer au bouchon dans la cuisine, entendit le bruit, ne reconnut pas celui de ses maîtres, le pas bien entendu, et se tapit dans un coin, l'oreille tendue. Une minute plus tard, sa religion était éclairée. Nul doute, c'était bien des cambrioleurs qu'il avait affaire. À l'astuce du renard, Castor ajoute la prudence du serpent, jointe à la fidélité de l'hirondelle. Seule la vaillance du lion fait défaut à ce pauvre animal. Que faire en cette occurrence? Une angoisse folle étreignait la gorge de Castor. Aboyer? Quelle imprudence! Les malandrins se jetteraient sur lui et l'étrangleraient tel un poulet. Se taire, s'enfuir, est le devoir professionnel. Une lueur probablement géniale inonda brusquement le cerveau de Castor. Sortant à pas de loup, ce qui lui est facile, ataviquement, le chien descendant du loup, Castor se précipita vers une maison en construction, sise non loin du domicile des époux H, saisissant dans sa gueule une des lanternes, éclairage levant, ainsi nommé parce que la moindre brise suffit à son extinction. Castor revint en toute hâte vers le logement de ses maîtres. La ruse eut tout le succès qu'elle méritait. Les cambrioleurs, apercevant de la lumière dans la pièce voisine, se crurent surpris et se sauvèrent par les toits. Les cambrioleurs se sauvent toujours par les toits dès qu'ils sont surpris. Il serait impossible de rendre la joie de Castor à la vue de la réussite de sa supercherie. Quand ses maîtres rentrèrent, ils le trouvèrent se frottant encore les pattes de satisfaction. « Et il y a des gens qui disent que les bêtes n'ont pas d'âme. Imbécile, va !» Loufoquerie. Cet homme me contemplait avec une telle insistance que je commençais à en prendre rage. Pour un peu, je lui aurais envoyé une bonne paire de soufflets sur la physionomie, sans préjudice pour un coup de pied dans les gencives. « Quand vous aurez fini de me regarder, espèce d'imbécile, fis-je au comble de lire. » Mais lui se leva, vint à moi, prit mes mains avec toutes les marques de l'allégresse affectueuse. « Est-ce bien toi qui me parles ainsi ? » dit-il. « Je ne le connaissais pas du tout. » Il se nomma. « Edmond Tiroir. »« Comment m'exclamai-je ? C'est toi, mon pauvre Tiroir ? Je ne te remettais pas. Mais pardon, si j'ose, n'étais-tu point dans le temps blond avec des yeux bleus ? C'est juste. Je me suis fait teindre les cheveux et les yeux. » « Suis-je pas mieux en brun ?»« Ce pauvre Tiroir, j'étais si content de le revoir, depuis le temps. » Et nous égrénâmes les souvenirs du passé. Et machin, et un tel, et chose. Hélas, que de disparus. Tiroir et moi, nous étions dans la même classe au collège. Je ne me rappelle pas bien lequel de nous deux était le plus flemmard. Mais ce qu'on rigolait. Il mettait au pillage la maison de son père qui était quincaillier, et nous apportait chaque matin 1000 petits objets utiles ou agréables, des couteaux, des vis, des cadenas, des aimants. J'adorais les aimants. Moi, en ma qualité de fils de pharmacien, je gorgeais mes camarades d'un tas de cochonneries, des pâtes pectorales, des dattes. Entre-temps, j'apportais des seringues en verre, aux joies, et des suspensoires qu'on transformait en frondes. Un jour, mon Dieu, ai-je ri ce jour-là? J'arrivais muni d'une boîte de biscuits dont chacun recelait, si j'ai bonne mémoire, 75 centigrammes de scamonée. Toute la classe ne fit qu'une bouchée de ces friandises traîtresses. Mais c'est une heure après qu'il fallait voir les faces livides de mes petits camarades. Mon Dieu, ai-je ri. Ah, ce jour-là, le niveau des études ne monta pas beaucoup dans notre classe. Comme c'est loin tout ça. Et avec tiroir, nous nous remémorions tous ces vieux temps disparus. Te rappelles-tu mon expérience de parachute? Si je me rappelais son parachute. Un jeudi dans l'après-midi, Tiroir nous avait tous conviés à une expérience due à son ingéniosité. Il avait attaché un panier au bec d'un vieux parapluie rouge, inséré un chat dans le panier et lâché le tout au gré de la brise. Le gré de la brise balançait l'appareil dans les airs pendant de longues heures. Toute la ville était sens dessus-dessous. La tante Tiroir, qui adorait son chat et n'avait jamais rêvé pour lui une telle destinée, poussait des clameurs à fendre des pierres précieuses. Finalement, l'appareil alla s'accrocher au coq du clocher, et il ne fallut pas moins d'un caporal de pompiers pour aller délivrer le miné aérien. « Et maintenant, demandai-je à Tiroir, que fais-tu »«
Je ne fais rien, mon ami, je suis riche. »
Et Tiroir voulut bien me conter son existence, une existence auprès de laquelle l'odyssée du vieil Homère ne semblerait qu'un pâle récit de feu de cheminée. Quelques traits saillants du récit de Tiroir donneront à ma clientèle une idée de l'originalité de mon ami. Certaines entreprises malheureuses, entre autres la poissonnerie continentale, laissée pour compte des grands poissonniers de Paris, déterminèrent Tiroir à s'expatrier. Son commerce de pacotille ne réussit guère mieux. Jeune encore, d'une nature frivole et brouillonne, il ne regardait pas toujours si les marchandises qu'il importait s'adaptaient bien aux besoins des pays destinataires. Et il lui arriva par exemple d'importer des éventails japonais au Spitzberg et des bassinoires au Congo. Dégoûté du commerce, il partit au Canada dans le but de faire de la haute banque. De mauvais jours luirent pour lui, et il se vit contraint, afin de gagner sa vie, d'embrasser la profession de scaphandrier. Les scaphandriers étaient fortement exploités à cette époque. Tiroir les réunit en syndicat et organisa la grève générale des scaphandriers du Saint-Laurent. Fait assez curieux dans l'histoire des grèves, ces braves travailleurs ne demandaient ni augmentation de salaire, ni diminution de travail. Tout ce qu'ils exigeaient, c'était le droit absolu de ne pas travailler par les temps de pluie. Ajoutons qu'ils eurent vite gain de cause. Tiroir s'occupa dès lors du dressage de toutes sortes de bêtes. Le succès couronna ses efforts. Tiroir dressa la totalité des animaux de la création, depuis l'éléphant jusqu'au ciron. Mais ce fut surtout dans le dressage de la sardine à l'huile qu'il dépassa tout ce qu'on avait fait jusqu'à ce jour. Rien n'était plus intéressant que de voir ces intelligentes petites créatures évoluer, tourner, faire mille grâces dans leur aquarium. Le travail se terminait par le chœur des soldats, de Faust, chanté par les sardines. Après quoi, elles venaient d'elles-mêmes se ranger dans leur boîte, d'où elles ne bougeaient point jusqu'à la représentation du lendemain. À présent, Tiroir, riche et officier d'académie, goûte un repos qu'il a bien mérité. J'ai visité hier son merveilleux hôtel de l'impasse Gelma, où j'ai particulièrement admiré les jardins suspendus qu'il a fait venir de Babylone à grands frais. Toujours dans la collection Humour, voici le nommé Fabrice. Hé, là-bas, le vieux rigolo, qu'est-ce que vous demandez ? Le vieux rigolo, ainsi interpellé, ne répondit pas, mais comme en proie à une indicible stupeur, il regardait les bâtiments neufs à peine terminés, une petite maisonnette en briques, les hangars, les écuries, une immense bascule destinée à peser les voitures de betteraves. Tout de même, fit-il, faut être bougrement effronté.
De quoi donc, mon brave ?
Faut avoir un rude toupet. Fatigué sans doute de cette conversation, le contremaître demanda brusquement au paysan.
Enfin, qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Qui je suis ? Vous me demandez qui je suis ? Je suis le nommé Fabrice. Et je suis chemé, et vous n'êtes pas chez vous.
Comment vous êtes chez vous?
Je suis chemé, et vous allez me faire le plaisir de foutre le camp avec vos gens et toutes vos saloperies de bâtisse. Et puis, je vous demanderai 3 000 francs de dommages et intérêts.
Sur ces entrefaites, l'architecte arrivait au chantier. La dernière phrase du vieux campagnard le fit légèrement pâlir. Si c'était vrai, pourtant, qu'on l'eût bâti sur son champ. Le plus comique, c'est que la chose était parfaitement exacte. Le pauvre architecte s'était trompé de terrain et il avait construit sur le champ du nommé Fabrice pour 50 000 francs de bâtiment au compte d'une grande sucrerie voisine. On allait en faire une tête à l'administration quand on apprendrait ça. L'architecte esquissa le geste habituel des architectes qui n'emmènent pas large. Il se gratta la tête et le nez alternativement. L'indignation du campagnard allait croissant. « Je suis le nommé Fabrice, et personne n'a le droit de construire sur mon bien. Personne. »« Effectivement, » balbutia l'architecte, « il y a erreur, mais elle est facilement réparable. Nous allons vous donner l'autre champ, le nôtre. Il est d'égale surface et je n'en veux point de votre champ. C'est le mien qu'il me faut. Vous n'avez pas le droit de bâtir sur mon bien, ni vous ni personne. Je vous donne 8 jours pour démolir tout ça et remettre mon champ en état. Et puis, je demande 3 000 francs de dommages et intérêts. » La discussion continua sur ce ton. Le pauvre architecte, qui en menait de moins en moins là, s'efforçait de convaincre le nommé Fabrice. Le vieux paysan ne voulait rien savoir. Il lui fallait son champ débarrassé des saloperies de bâtisse et en plus 3 000 francs d'indemnité. Le propriétaire de la sucrerie, informé de cet étrange malentendu, arriva vite et voulut transiger. Le nommé Fabrice était buté. En marchanda, 5 000 francs d'indemnité. Non, ma terre. 10 000. Non, ma terre. 20 000. Non, ma terre. Ah, zut, nous plaiderons alors. Malgré la bonne volonté des juges, on ne put découvrir dans le code le plus mince article de loi autorisant un sucrier à bâtir sur le champ d'autrui, même en l'indemnisant après. Le sucrier fut condamné à remettre le bien du nommé Fabrice dans l'état où il l'avait pris. Les considérants du jugement blâmaient la légèreté de l'architecte, et surtout la mauvaise foi évidente et la rapacité du nommé Fabrice. Le nommé Fabrice riait sous cape. Il alla trouver le sucrier. « Écoutez, fit-il, je ne suis pas un méchant homme. Donnez-moi votre champ et 40 000 francs et je vous fous la paix. » Le plus tard, le caissier raconta que le nommé Fabrice, en signant son reçu de 40 000 francs, avait murmuré. « C'est égal, hein? Faut avoir un rude toupé tout de même. » On ne sut jamais si c'était de lui qu'il voulait parler ou d'un autre. D'Alphonse Sahé, le bahut Henri II. Nous en étions arrivés à ce moment du dîner où se produit ordinairement l'explosion des sentiments généreux. D'un commun accord, nous flétrîmes l'esclavage. La question avait été mise sur le tapis par un gros garçon que l'on prétendait être un fils naturel de Monseigneur de la Vigerie. Le fait est que l'extrême rubiconderie de son teint semblait dériver immédiatement de quelques pourpres cardinalis. Ce dîner était un dîner joyeux, composé de quelques Portugais, lesquels, ainsi que l'affirme un proverbe arabe, n'engendrent jamais la mélancolie. Il y avait là le major Saligo, Etimeo Danaos, et Donia Ferentes, la seule dame de la société, et Sinon, et Véro, et Ben Trovato, et quelques autres que j'oublie. En fait de français, l'écarlate bâtard, le lieutenant de vaisseau, bec dans l'eau, et moi. J'ai dit plus haut que nous flétrissions l'esclavage d'un commun accord. Cela n'est pas tout à fait exact. Bec dans l'eau ne flétrissait rien du tout. Bec dans l'eau semblait pour le moment étranger à toute indignation. Ce fut la belle Donia Ferentes qui s'en aperçut la première. « Eh bien, capitaine, fit-elle, de sa jolie voix andalouse, ça ne vous révolte pas, ces hommes vendus par des hommes, ces hideux marchés d'Afrique ?»« Je vous demande 1000 pardons, seigneura, répondit l'homme de mer. Je me sens indigné au plus creux de mon être, mais ma conduite passée m'interdit de me joindre à vous pour conspuer publiquement ces détestables pratiques. » Après un silence, il ajouta, « Moi qui vous parle, j'ai vendu un homme. Ce souvenir ne semblait pas torturer à l'excès notre ami bec dans l'eau, car il éclata d'un rire auquel le remords n'enlevait rien de sa joyeuse sonorité. « Vous, capitaine, vous, l'honneur de la marine française, vous avez vendu un homme ?»«
J'ai vendu un homme, » insista bec dans l'eau, toujours gai.
« En Afrique ?»«
Non, pas en Afrique, en France. »«
En France ?»«
Parfaitement. »«
Et même mieux,
à Paris. » »«
À Paris ?»«
Parfaitement. »
Et même mieux, à l'hôtel des ventes, rue de Rouault.
Du coup, nous jugeâmes que l'intrépide marin se gaussait de nous.
Le fils naturel de monseigneur de la Vigerie se fit l'écho de tous.
Vous payez notre poire, capitaine.
Sans s'arrêter à cette apostrophe triviale, bec dans l'eau reprit.
Oui, seigneura, oui, messieurs, j'ai bazardé un bonhomme à l'hôtel des ventes.
Ce n'est même pas une brillante opération que j'ai faite là. J'ai perdu 350 francs. J'ai bien rigolé.
Un point d'interrogation se peignit sur chacune de nos faces.
Contez-nous cela, ordonna Ferrantes.
Un marin français n'a jamais rien refusé à une grande dame andalouse.
Le fait est bien connu. Je passe sous silence le cigare classique qu'alluma le conteur, les spirales traditionnellement bleuâtres qu'il contempla un instant, et j'arrive au récit de bec dans l'eau. Il y a de cela 3 ans, j'arrivais du Sénégal avec un congé de 6 mois de convalescence et bien disposé à en profiter largement. Un petit héritage que je venais d'accomplir me permettait de bien faire les choses. Je louais rue Brémontier, un rez-de-chaussée, que je meublais fort gentiment, ma foi, et me voilà parti pour la vie joyeuse. Un soir, au jardin de Paris, je fis connaissance d'une jeune femme qui me plut énormément. Pas étonnamment jolie, mais d'une distinction et d'un charme, très réservée avec cela, et ne ressemblant nullement à toutes ces marchandes d'amour qui peuplaient l'endroit. Elle me raconta une histoire à dormir debout, dans laquelle je coupais d'ailleurs comme un rasoir. Fille d'un général, élevée à Saint-Denis, père remarié, belle-mère acariâtre, scène continuelle, existence impossible, fuite, malheur, envie de suicide. Le tout accompagné de larmes furtives qu'elle essuyait fréquemment avec un mouchoir sentant très bon. Ce qui suivit, vous le devinez tous, n'est-ce pas? J'emmenai la jeune personne chez moi, l'installai, la lotis d'un amour de petite femme de chambre. Bref, je fus bon avec elle, comme s'il en pleuvait, et discret et bien élevé. Tout à fait charmant, vous dis-je. Je la laissai seule presque toute la journée, ne venant l'acquérir que le soir, vers 6 heures, pour dîner, aller au théâtre, au concert. Elle semblait cette prise pour moi d'une ardente passion, et me répétait souvent. « Quand vous me quitterez, mon ami, je me tuerai. »«
Diable !»
Je commençai à devenir sérieusement inquiet de la tournure que prenaient les choses quand un matin, l'amour de petite femme de chambre me remit un billet qu'elle me pria de lire plus tard dans la journée.
« Monsieur, disait le billet, n'a pas idée de ce que madame se fiche de monsieur. Monsieur n'a pas plutôt les talons tournés que madame reçoit une espèce de gigolo qui marque bigrement mal. » Au cas où monsieur rentrerait brusquement, ce qui est déjà arrivé une fois. L'affaire est arrangée. Le gigolo se glisse dans le bahut Henri II qui sert de coffre à bois pendant l'hiver. Madame donne un tour de clé au bahut, met la clé dans sa poche et ni vu ni connu. Comme le couvercle ne joint pas très bien et que le bahut est très grand, le gigolo n'est pas trop mal pendant que monsieur est là. Pour être sûr de piéger le gigolo, venir de préférence vers 2 heures de l'après-midi.
« Marie ? D'abord, je me refusais à croire à tant d'infamie. Et tout de même, c'était là, vers 2 heures. Une mimique expressive de l'amour de petite femme de chambre m'apprit que j'arrivais bien. « Hélène, vous ai-je dit que la personne s'appelait Hélène ? Hélène me reçut avec le plus enchanteur de ses sourires et la plus calme de ses physionomies. Quelle bonne fortune de vous voir à cette heure ! La clé du bahut n'était pas sur la serrure. Une grosse clé en fer forgé de l'époque, assez malaisé à dissimuler. Quelques privautés manuelles m'apprirent à n'en pas douter que la clé se trouvait dans une des poches de la belle. Donc plus de doute. Comment l'idée me vint de faire ce que je fis en cette circonstance? Je n'en sais encore rien. Une lueur de génie, sans doute. J'envoyai Hélène m'acheter une cravate chez un chemisier de l'avenue de Villiers, prétendant qu'elle seule saurait la choisir à mon goût. Pendant son absence, et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, j'arrêtai une voiture, aidé d'un commissionnaire, je charge le bahut Henri II et en route pour la salle des ventes. Le meuble, grâce à quelques pièces de 100 sous judicieusement distribuées, prit place dans un mobilier qu'on allait mettre en vente. On fit bien quelques difficultés pour la clé absente, mais l'état du dehors répondait pour la conservation intérieure. Au bout d'une demi-heure, un Auvergnat en faisait l'acquisition pour la somme de 250 francs. Il m'en avait coûté 600. Mon bahut fut chargé avec son contenu sur une énorme voiture de déménagement. On entassa par-dessus les objets les plus hétéroclites. Literie, bronze d'art, bouteille de vin, cage à oiseaux, voiture d'enfant, lustre en cristal, etc. Sous cet attirail, le gigolo devait mener un train d'enfer. Mais les parois épaisses du bahut étouffaient ses clameurs. Dans quelle direction fut-il dirigé? Lui rendit-on promptement sa liberté? Ou bien s'y est encore? Je ne songeais jamais à m'occuper de ces détails. Mais je vous le répète, seigneurs et messieurs, si j'ai ri dans ma vie, c'est bien ce jour-là. Quant à Hélène, je ne la revis pas. L'amour de petite femme de chambre m'apprit qu'elle avait quitté mon appartement après avoir fait un petit paquet de ses objets précieux et sans faire la moindre allusion aux meubles qui manquaient. Depuis ce temps-là, j'ai banni tout bahut Henri II de mes ameublements. Fond salé, bizarroïde. Je ne suis pas ce qu'on appelle un ennemi de l'originalité. Certes, j'estime qu'il convient d'enfiler ses propres bottes, de préférence à celles des autres. Mais de là, grand Dieu, à chausser les escarpins de la chimère, les godillots du jamais vécu et les brodequins de l'inarrivable, trouvez-vous pas une nuance ? Certaines gens s'appliquent à toutes les déconcertances. Pour d'autres aussi, soyons justes, la maboulite chronique paraît être la seule norme, dans le verbe aussi bien que dans le geste. Ce matin, je suis allé prendre un bain. À l'entrée, causaient deux messieurs, un qui s'en allait, un qui venait, et la conversation s'arrêta sur ce mot « que dit celui qui venait ?» Eh bien, je vous assure, mon cher usufruitier, que je n'ai pas tant de frais qu'on dit, parce qu'il y a un ami de ma tante Morin qui me sert d'ancien préfet. Je ne songeais même pas à deviner le sens de ce propos, mais, l'avouerai-je, j'en contractais quelque inquiétude. Justement, l'homme qui avait proféré cette drôle de phrase « occupait la cabine », dit-on cabine quand il s'agit de bain chaud, voisine de la mienne. Les cloisons de mon établissement de bain sont minces, ainsi que la baudruche. Aussi perçoit-on le plus mince clapotis d'à côté. Mon voisin, le neveu de Madame Morin, faisait une vie d'enfer dans sa baignoire. Un groupe important d'otaries, eût-on dit. Et puis, à un moment, voilà qu'il s'interrompit pour sonner le garçon. « Monsieur a sonné ?» fit bientôt ce dernier. « Oui. Donnez-moi de la monnaie de 20 sous. » Alors qu'il est, je me demande encore, quel besoin immédiat peut pousser un homme nu, qui trempe dans l'eau tiède, à demander, toute affaire cessante, de la monnaie de 20 sous. D'Alphonse Allais, Faits divers et d'été. Faits divers et d'été. Une lettre reçue la semaine dernière de Chalon-sur-Saône n'a pas laissé que de me piquer au vif. Mon grincheux correspondant me demande « Cusque tandem ?» Je le raserai avec mes histoires à dormir debout. Il me dénie toute ingéniosité dans les aperçus. La fantaisie, considère-t-il, m'est à jamais rebelle. Il ajoute froidement que mon style est saumâtre et galipoteux. Tous ces reproches ne seraient rien encore sans un post-scriptum venimeux, postal flèche du Parthe, dans lequel il ne me l'envoie pas dire. Berner le lecteur est un art facile. Gageons, cher monsieur, que vous ne seriez pas foutu, sic, de tourner un simple fait divers. À ce dernier reproche, dois-je l'avouer, mon sang n'a fait qu'un tour, et encore, j'ai trempé dans l'encre mon excellente plume de Tolède, et j'ai rédigé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire un petit lot de faits divers qui ne sont pas, je m'en flatte, dans une potiche. Depuis que Laffitte est devenue ministre, pour avoir amassé une épingle dans la cour d'une banque, je ramasse tout, même les défis. Voici mon petit essai. temps probable pour demain. Sec, avec peut-être de la pluie, température relativement élevée, à moins de l'abaissement thermométrique. L'accident de la rue Quincampoix. Un jeune ouvrier menuissier, le nommé Edmond Q, âgé de 48 ans, était occupé à remettre des ardoises à la toiture de la maison 6 au 328 de la rue Mazagran, lorsqu'à la suite d'un étourdissement, il fut précipité dans le vide. L'accident avait amassé une foule considérable et ce ne fut qu'un cri d'horreur dans toute l'assistance. On s'attendait à voir l'infortuné s'abattre sur le pavé quand, en passant devant la fenêtre du premier étage, quelle ne fut pas la surprise de la foule en constatant que l'ouvrier, sollicité par les œillades d'une femme de mauvaise vie qui s'y trouvait, et comme il en pullule dans le quartier, s'arrêta dans sa chute et pénétra par la fenêtre dans la chambre de la prostituée. Les médecins refusent de se prononcer sur son état avant une huitaine de jours. Les nouveaux wagons de la Compagnie de l'Ouest. Un bon point à la Compagnie de l'Ouest. On vient de mettre en circulation les nouveaux wagons pour priseurs. Une plaque de cuivre sur laquelle se trouve inscrit le mot priseur indique la destination de ces voitures. Il sera donc interdit désormais de priser dans d'autres compartiments que ceux réservés ad hoc. À partir du 1er juillet, tous les wagons de première classe seront munis de glaçouillottes, qui ne sont autres que des bouillottes dans lesquelles l'eau chaude est remplacée par de la glace. Il est à souhaiter que pareille mesure s'applique aux deuxième et même aux troisième classes. Terminons par une bonne nouvelle. La Compagnie de l'Ouest vient enfin de donner satisfaction aux incessantes réclamations des mécaniciens. L'hiver prochain, sur toutes les grandes lignes, les locomotives seront chauffées. Encore des bicyclettes. Monsieur le préfet de police, au lieu de pourchasser les bookmakers et les innocentes petites marchandes de fleurs, ferait beaucoup mieux de songer à réglementer les bicyclettes qui, par ces temps de chaleur, constituent un véritable danger public. Encore hier matin, une bicyclette s'est échappée de son hangar et a parcouru à toute vitesse la rue Vivienne, bousculant tout et semant la terreur sur son passage. Elle était arrivée au coin du boulevard Montparnasse et de la rue Lepic quand un brave agent la battit d'une balle dans la pédale gauche. L'autopsie a démontré qu'elle était atteinte de rage. Où la falsification va-t-elle se nicher? On vient d'arrêter d'envoyer au dépôt au charbonnier le nommé Gandillot, qui avait trouvé un excellent truc pour faire fortune aux dépens de la bourse et de la santé de ses clients. Cet honnête industriel livrait à ses pratiques, au lieu de l'eau qu'on lui demandait, un petit vin blanc de son pays qu'il achetait à vil prix. La fraude n'a pas tardé à être découverte, grâce à la disposition d'une vieille dame d'origine polonaise, la veuve Mazur K, rentière, qui envoya au laboratoire municipal le liquide douteux. Le brave Auvergnat aura à rendre compte à la justice de son ingénieuse combinaison. Baisse accidentelle de la Seine. Un accident étrange et, par bonheur, assez rare, vient de jeter la perturbation chez tous les riverains de la Seine. Un énorme chaland chargé de papiers buvards est venu heurter une des piles du pont Royal. Une voie d'eau se déclara et le bâtiment coula immédiatement. Le papier buvard, contenu dans le chaland, absorba bientôt toute l'eau ambiante et il s'ensuivit un abaissement de 1,20 m dans l'étiage du fleuve. Les pompiers du poste de la rue Blanche, mandés sur le champ, arrivèrent et se mirent en devoir de rétablir les choses dans leur état. Après 6 heures de travail acharné, la Seine avait repris son niveau normal. Malheureusement, les braves pompiers, dans leur zèle, ne manquèrent pas de causer force dégâts. Signalons notamment l'établissement de Bainfroid, de Ligny, qui a été littéralement inondé. Un peu moins de zèle, que diable. Conclusion. Eh bien, mon vieux chalonnet, suis-je foutu, sic, de tourner un fait divers, oui ou non ?